Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Eric Carrère, Laurent Binder et Cédric Châtelus. Réalisation Lise Combe. Autour de moi ce soir, en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, nous sommes avec Lucille Como, Muriel Jaudet et Antoine Guillot pour parler ensemble de High Life de Claire Denis. Première solitude de Claire Simon, il y aura un coup de cœur de Muriel Jaudet pour The Other Side of the Wind d'Orson Welles sur Netflix et justement le petit salon de Lucille Como à l'occasion de la sortie sur Netflix ce jour du dernier film des frères Cohen parlera de ces questions de sortie, de films, de cinéma dans la télévision. Est-ce toujours du cinéma ou est-ce que de... Enfin bon bref, on en parlera tout à l'heure. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des coffrets DVD de Senses de Ryosuke Hamaguchi distribués par Arte. Nous ouvrons cette dispute avec le film de Claire Denis, High Life, sorti il y a 10 jours, qui connaît un début d'exploitation très difficile, peu d'entrées en salle. On va débattre ici de ce film et peut-être, on le verra à l'issue de cette séquence, donnerons-nous envie d'aller le découvrir en cette fin de semaine, sa carrière en salle risquant sans doute de ne pas durer très longtemps. Robert Pattinson et Juliette Binoche sont les têtes d'affiche de ce thriller spatial. Mais c'est le premier qui ouvre le film avec une autre des vedettes de ce film, un bébé. Apparemment seul dans ce vaisseau spatial avec sa petite fille. On va voir que le film nous révélera peu à peu les clés de ce mystère.
You were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us.
Serve science.
Why do you keep taking this sperm?
I'll never have kids.
Someday. I know I look like a witch.
It's just a new religion for you.
Fuck your baby mission!
We had to begin the deceleration maneuver so the ship could approach a black hole. This is the main goal of our mission. To check if we could capture a black hole's rotating energy.
Are you sick?
Do I look like my mother?
Special.
High Life de Claire Denis, après cette bande-annonce que vous venez d'entendre. Et si Muriel Jaudet commençait à nous en parler de ce film ?
Oui, alors moi j'ai été très, très agressée par le film. J'ai jamais porté Claire Denis dans mon cœur. Ce qui l'intéresse, elle, dans son cinéma, moi, ne m'intéresse pas. C'est un cinéma très viscéral. Enfin, je ne mets pas tous ces films dans ce sac-là, mais viscéral, ce cinéma du corps, et on y reviendra, là, ne m'intéresse pas, cinéma des pulsions. Et là, j'ai vraiment vu tout ce que j'aimais pas, mais dans une version presque cauchemardesque. J'ai eu le sentiment que le film était réalisé par un générateur de films arty, c'est-à-dire qu'il y a absolument tous les ingrédients du film arty. Et c'est un film, en plus, qui se prend constamment pour ce qu'il n'est pas, à mes yeux. C'est-à-dire que, je vais faire ça en trois points, c'est-à-dire qu'il n'est pas crédible.
Premier point, alors. Il n'est pas crédible.
Je, alors, en même temps. Je vais faire deux reproches que j'ai pas l'habitude de faire à des films, mais pour moi, il y a un vrai problème dans le casting. À partir du moment où vous tournez un film sur des condamnés à mort qu'on envoie dans l'espace, c'est compliqué de prendre des acteurs qui ressemblent tous à des mannequins. Pour moi, il y a un vrai problème au niveau du casting, c'est que je n'y crois pas une seule seconde. Alors que je peux aimer de très beaux acteurs dans un film hollywoodien et j'y crois, là, il y a pour moi une erreur de casting qui est sidérante et qui me gêne pendant 1h50.
Mais comme vous avez divulgué une partie, je peux dire qu'ils sont pris aussi pour leur beauté parce qu'ils sont censés se reproduire aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'avait échappé.
Argument 1, mais... balayé. Argument 2.
Non, après, c'est un argument qui tient peu la route parce que le film est très cheap et je reprocherai jamais un film cheap.
Vous voulez dire bon marché, hein, puisque...
Oui, bon marché, pardon, excusez-moi. Enfin, il y a vraiment, on sent que c'est fait dans un studio, on a l'impression, on voit les murs bouger, on se sent pas du tout dans l'espace. Et à part par le sound design qui est très conventionnel, hein, c'est ce qu'on attend d'un film d'horreur dans l'espace, parce que pour moi, c'est un peu un film d'horreur. C'est il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la mise en scène et que le sound design et la musique de Stuart Staples, je crois, essayent de rattraper. Ensuite, pour moi, c'est un film qui n'est pas lisible. Je ne comprends pas ce que le film essaye de me dire. J'ai beau lire toutes les critiques de mes collègues dessus, je ne comprends toujours pas. J'ai l'impression de voir une sorte de
Qu'est-ce qu'ils disent vos collègues ? Parce que moi, j'ai pas encore lu.
J'ai déjà oublié, mais bon, la vie, la mort, le sperme, tout ça. Enfin, je sais pas.
Ah oui,
ça va dans tous les sens. Non, mais on sent qu'il faut se laisser aller à quelque chose qui dépasse le discours rationnel. Et moi, je vois vraiment une marmite de concepts pseudo-philosophiques. Et puis, on prend un peu ce qu'on veut. Hein, c'est vraiment ça. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre où elle veut en venir. Et je pense qu'elle laisse le spectateur décider de quoi le film parle. Voilà, ça c'est un autre point. Et il y a aussi cette scène où j'ai vraiment eu le sentiment d'être en première année d'anthropologie. C'est-à-dire que c'est un moment Pattinson qui parle au bébé et qui lui dit « Ne mange pas ton pipi, ne mange pas ton caca, tu sais, c'est tabou, c'est tabou. Mm-hmm. » Et là, on se dit « Mais c'est vraiment ce que le film a de plus complexe à nous présenter. » Et puis il y a plein de répliques comme ça d'anthologie. « On t'a mis une chatte en plastique, ça sort de nulle part. » Et c'est... Moi, je ris intérieurement. Et j'ai l'impression même que la salle entière était assez exaspérée par ça.
Bon, après ce premier pilonnage, je reviendrai vers vous.
Oui, parce que j'ai encore un point.
Bah, on garde pour la bonne bouche.
Il y en a quatre alors, parce que vous en avez déjà dit trois.
Ou huit, je crois.
Ah oui, c'est
Antoine Guillot, sur High Life de Claire Denis.
Alors, je suis arrivé à ce film un peu inquiet, je dois vous avouer. D'abord parce que j'ai constaté, voulant aller le voir dans une salle plutôt près de chez moi, j'ai constaté qu'il y avait déjà très peu de salles à Paris. Vous parlez des problèmes de fréquentation, mais dès le début, il a été mal distribué. C'est un film qui a une sale réputation parce qu'il n'avait pas été pris à Cannes, alors donc tout de suite mauvaise réputation. Et surtout, sa présentation à Toronto a été désastreuse parce que la presse internationale et notamment anglo-saxonne tenait à peu près le discours de Muriel Joudet trouvant le film en plus généralement ridicule, grotesque. Etc. Quand on voit le film, on comprend un peu pourquoi ça peut provoquer cette réaction sur un public anglo-saxon. Je suis un peu plus surpris chez Muriel Joudet, puisqu'effectivement, il est beaucoup question d'humeur corporelle de toutes sortes. Hein. Je pense qu'elles sont elles y sont à peu près toutes dans le film, qui est ce qui dérange le plus un spectateur généralement anglo-saxon, pas la représentation de la violence, mais quand on ramène l'homme, l'être humain, à sa viscéralité et à tout ça. Moi, c'est plutôt ce qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, aimant plutôt le cinéma de Claire Denis, pas tout, mais aimant cette dimension-là du cinéma de Claire Denis, j'ai été très séduit par ça, pas du tout agressé. Sur la crédibilité, je trouve que c'est peut-être le film spatial le plus crédible que j'ai vu depuis longtemps, parce que ça utilise une technologie de très, pardon pour l'anglicisme encore, low-tech, c'est-à-dire vraiment de un peu misérable, de rien du tout, mais qui est assez crédible pour le coup, y compris sa sorte de poubelle de l'espace qui vole comme ça, qui n'est qu'une immense prison en fait, puisque vous l'avez dit, ce sont des condamnés à mort, et qui va avec les règles de la physique spatiale, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un engin aérodynamique à la Star Wars dans l'espace, puisqu'il n'y a pas d'air. Donc effectivement, vous pouvez balancer un conteneur comme ça, qui part vers le néant. Et alors, ce que ça raconte, ce que ça dit, moi-même, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, parce que j'ai eu le sentiment, surtout, que ça me parlait de nous, de moi, peut-être beaucoup, hein, mais sur cette course vers le néant dans lequel on est envoyé. Bizarrement, j'ai vu le film juste après avoir vu un film qui n'a rien à voir, mais que j'avais vu pour préparer une émission sur Jean Renoir que j'allais enregistrer, qui est Le Déjeuner sur l'herbe. Et je sais pas si vous vous souvenez du Déjeuner sur l'herbe, mais il est question de procréation artificielle et d'un devenir comme ça eugénique de l'humanité. Et j'ai eu l'impression que ce qui était inquiété, ce qui se pressentait dans Le Déjeuner sur l'herbe, et qui est le monde dans lequel on vit actuellement, ben on le voyait très exactement dans ce High Life. Moi, je trouve le montage tout à fait extraordinaire, y compris cette manière, alors qui est peut-être arty, prétentieuse, tout ce que vous voulez, mais de reconstruire, de présenter le film comme un puzzle dont on ne sait jamais à quel point il est halluciné, rêvé par le personnage de Pattinson. La scène centrale qui a fait hurler de rire à Toronto et que je trouve extraordinaire, qui est celle de la fuckbox, comme elle s'appelle dans le film. Alors, c'est l'anglicisme, mais dans le film, on dit fuck. Vox, voilà, qu'on pourrait appeler la boîte à baise, par exemple.
Le bésodrome dans les outils de français.
Le bésodrome, c'est déjà arrangé, oui, un peu, même si c'est Claire Denis qui a fait les sous-titres, mais c'est vraiment la boîte à baise. Et je la trouve extraordinaire. Enfin, c'est un moment de cinéma complètement dément, qui, moi, me provoque beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, je suis pas agressé, je suis interloqué par le film et j'aime ça.
Bon. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos, vous savez, maintenant, à France Culture, des petits formats. Je me dis vraiment, ils font une caméra sur Lucille Gaumeau pendant que les autres parlent, parce que vraiment, son visage est tellement expressif. Et c'est merveilleux. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir vos réactions, Lucille, mais ça m'intéresse encore plus de les entendre.
Alors moi, c'est un film qui m'a vraiment pas beaucoup convaincue et j'en attendais, je pense, trop. J'ai beaucoup aimé le début. Ça commence par... alors c'est peut-être le côté arty, justement, qui m'a plutôt plu, par des images extrêmement artificielles d'une nature, puisque à l'intérieur du vaisseau, il y a un vaste potager qui devient une sorte de jungle. Et donc ça commence par des images baignées dans une forme de brume de cette végétation-là. Et tout le début... On est vraiment dans un présent de spectateurs, qui est d'ailleurs assez intéressant puisque toute la question de la temporalité est au cœur du film, qui ne laisse à rien attendre. Donc on a ce personnage de Robert Pattinson et l'enfant, qui sont dans une quotidienneté très triviale de père-fille, avec des gestes du quotidien d'être avec un bébé, assez authentique, moi, qui m'ont assez touchée, qui entre en contraste avec le côté totalement construit du décor, qui est vraiment un décor, vous en parliez Antoine, presque de théâtre. C'est vraiment du carton-pâte absolument partout. Il y a un moment au début où Robert Pattinson, son personnage, pousse les corps de ses coéquipiers en dehors, dans une sorte de dehors de cette grande boîte, et on voit vraiment que ce sont les coulisses d'une sorte de grande boîte en carton. Et ça, cette espèce de fragilité qui existe entre la cohabitation de quelque chose de très tendre, de très authentique, et de quelque chose de très construit dans le décor, m'a plutôt touchée. Après, moi, j'ai presque plus, par rapport à ce que vous disiez, Muriel, un problème de trop de compréhension. Je trouve que le scénario se fige assez vite avec les flashbacks, qui arrivent quand même très très vite, qui en plus qu'on laisse très vite à penser qu'il y a une faute originelle derrière toute cette histoire, et qui ancre d'emblée toute l'histoire dans une forme de fable, en effet, de conte philosophique, qui à mon avis est assez lourd, avec des gros enjeux très archaïques entre la femme et l'homme, la mort, la vie. Il y a cette idée qui est quand même une idée maintenant assez bateau et cliché du film de science-fiction, de la réversibilité, c'est-à-dire que l'infini de l'univers, c'est aussi l'intériorité du ventre de la femme qui crée. Tout ça m'a beaucoup ennuyé, en fait. Donc, à partir du moment où je vois la forme des flashbacks et du présent de la narration qui vont se rejoindre en une sorte de conte assez bateau, je me suis quand même beaucoup ennuyée, et je vois plein de scènes, donc la fameuse scène de la fuckbox par exemple, je la trouve très laide, je la trouve vraiment pas dérangeante, parce qu'elle me dérange d'un point de vue charnel. Je trouve que d'ailleurs le film est tout sauf charnel, et la question des fluides, on m'en rabat les oreilles sur... Claire Denis, depuis que le film est sorti, mais je ne vois rien de charnel et rien de cet ordre-là dans le film. Je vois quelque chose de très très froid et de très sec. Et du coup, cette scène-là, par exemple, me dérange. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. Elle me dérange au sens premier. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. J'y vois une sorte de prouesse cinématographique pas très intéressante. Il y a une ambition chorégraphique, clairement, puisque c'est une forme de danse. Et de ce point de vue, je la trouve ratée. Donc, et la même chose, il y a beaucoup d'effets. Vous parliez de film arty. Il y a beaucoup d'effets. L'idée d'utiliser, par exemple, la pellicule quand on est sur Terre, du 16 mm, donc là d'un seul coup on a une image avec un grain hyper épais, c'est pas très intelligent, je trouve, d'un point de vue de la mise en scène. C'est dommage parce que vraiment pour moi ça commençait bien, l'intérêt, je garde un intérêt pendant tout le film pour la relation entre le père et sa fille, vraiment, mais c'est du coup une relation assez authentique, assez simple, et je comprends pas tout ce qu'on vient me raconter derrière sur le recyclage, la reproduction, vraiment ça m'a pas du tout intéressé.
Bon, alors moi, je crois que j'en attendais rien, sauf que j'aime beaucoup, moi, les films de Claire Denis depuis longtemps. Et alors, au début, je me suis dit, mais c'est la suite de Nénette et Bonnie, parce que Nénette et Bonnie, qui est un film que j'aime beaucoup, qui date d'il y a, je sais pas, une quinzaine d'années maintenant, c'est terminé à la maternité, c'était la naissance, et c'est cette façon qu'avait Claire Denis de filmer ce nouveau-né, moi, m'avait beaucoup, beaucoup ému, et comme m'ont beaucoup ému toutes ces séquences avec ce bébé. Mais alors bon, voilà, ça c'est aussi très personnel, j'adore les bébés, sans doute.
Non, mais en plus,
et
c'est
moi,
dur
je trouve
de faire
ça extrêmement émouvant. Là, je trouve qu'elle le filme merveilleusement, de voir les premiers pas qui ne peuvent pas être joués, enfin, d'un enfant. Moi, ça me bouleverse, et je trouve que à l'inverse de vous, j'ai pas du tout été agressé, Muriel. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement doux. extrêmement tendre. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup ému, beaucoup touché. Moi, j'étais vraiment dedans tout le temps. Et puis, c'est vrai que parce qu'effectivement, à un moment, une histoire se raconte. Alors je me suis dit, comment ça va partir. Je vois des acteurs qui n'ont pas tous des physiques de mannequins, mais même si je les aime beaucoup, que ce soit Lars Eidinger ou cette actrice polonaise dont le nom ne me revient plus là tout de suite, qui ne sont pas des beautés quand même classiques, vous en conviendrez, mais qui sont d'ailleurs tous deux de très grands comédiens de théâtre, notamment. Je me suis dit, où ça va, dans quoi ça part. Et moi, je trouve que le scénario... Alors, vous trouvez un peu lourd, Lucille Comeau, mais moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus pertinent que la plupart des scénarios des films d'anticipation qu'on voit depuis des dizaines d'années. Enfin, je trouve que c'est extrêmement construit, qu'il y a une mécanique qui pour moi, en tout cas, fonctionne. Et, puisqu'on parle de ça, vous citiez la question du tabou au début, mais... Soit vous n'avez pas vu le film en entier parce que vous étiez excédé, mais il y a quand même une boucle dans ce film. Ça commence par un tabou, ça finit par un tabou. Je ne vais pas trop en dire, mais ce que ça raconte ce film, c'est quand même ça. C'est qu'est-ce qu'on fait pour survivre? Qu'est-ce qu'il faut dépasser comme tabou? Pour moi, c'est d'une limpidité. J'ai trouvé ça absolument, cette fin, absolument magnifique. Alors, on peut peut-être en dire quelque chose. Le film est sorti il y a 10 jours, mais j'espère donner envie à des gens de le voir, parce que moi, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup, beaucoup ému. Muriel Jodet.
Non, mais cette question du tabou, c'est juste la manière dont elle est formulée par Pattinson. Par ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup
les scènes. C'est drôle d'apprendre à un nouveau-né le mot tabou, parce que ça sonne bien. C'est un mot que les enfants pourraient dire, mais c'est pas gratuit, c'est ça que je veux dire.
Oui,
quand
bien
vous disiez
sûr.
Ça tout à l'heure, ça paraissait gratuit.
Bah, c'est juste que je trouve ça un peu débile. Mais je sauve quand même les scènes entre Pattinson et le bébé. J'ai l'impression que Pattinson provoque chez les cinéastes l'envie d'enfermement, comme dans Cosmopolis. On l'enferme et on le filme, parce que finalement, il induit ça, il provoque ça, et ça, je trouve ça très beau, parce que je pense que c'est un très grand acteur. Moi, je l'aimais déjà dans Twilight, donc là, dans Cosmopolis, je le trouve incroyable.
Et là, non.
Et si, là, je le trouve très bien, mais le film, j'aime tellement pas le film que même lui n'arrive pas à le sauver à mes yeux. Mais je trouve que c'est un acteur vraiment absolument génial et qui physiquement a dépassé son statut de bel âtre pour donner quelque chose de vraiment étrange. Et j'ai aussi le sentiment que Claire Denis avait le film de Cronenberg en tête, et même Cronenberg en tête, mais vraiment cette idée de l'enfermer et finalement de faire l'amour avec lui, mais avec la caméra. Puis elle en parle comme ça aussi, de tomber amoureux. Ça m'a intéressée. Et les scènes avec l'enfant, là, je peux rien dire parce qu'elles sont vraiment très belles. Là, enfin, le discours parfois se suspend. Et voir un bébé qui, pour moi, sort vraiment de l'acteur studio, parce qu'il joue très bien le bébé, ça m'a plu. Il est vraiment très mignon.
Pattinson, pour revenir un instant là-dessus, moi, c'est la première fois que j'ai l'impression de le voir véritablement. Ouais. Il m'a tout à fait impressionné aussi, mais je crois que l'amour est réciproque et que Pattinson a autant envie d'être dans ce film, j'ai l'impression, que Claire Denis de le filmer. Enfin, il y a quelque chose aussi qui s'échange d'une volonté de faire un film ensemble. Là, je trouve que ça se transmet aussi de l'autre côté de l'écran. Lucille Comeau.
Oui, mais je reviens un peu sur ce que je disais. En fait, par exemple, Pattinson, il est très beau à voir et à voir dans ce film quand on est dans une sorte de pur présent de la contemplation de ce qui pourrait être un beau film expérimental, mais pas un long métrage avec l'arsenal narratif qu'il y a derrière. Dès que l'histoire commence, dès qu'il est déterminé par sa position sociale, par les rapports de force qui se mettent en place dans le vaisseau, vraiment le personnage ne m'intéresse absolument plus du tout. Et par ailleurs, le personnage, on n'a pas beaucoup parlé encore, mais qu'interprète Juliette Binoche, au-delà de la scène avec la sexbox, vraiment, c'est trop, en fait, cette espèce de sorcière. Bon, ils le disent, à un moment donné, tout est très, très dit, tout est fléché. Le fait qu'elle soit une sorte de sorcière, que c'est une Médée, par ailleurs, parce que voilà, son passé est celui d'une Médée. Et elle a des immenses cheveux qui lui tombent jusqu'en dessous des reins. Tout ça est trop, en fait. On n'a pas besoin de toutes ces informations visuelles pour comprendre qu'on nous met devant un conte philosophique sur la puissance de la femme dans un univers post-apocalyptique. Vraiment, je trouve ça bizarre parce que ça rapporte une temporalité extrêmement classique dans un film justement sur qu'est-ce qu'on crée quand il n'y a plus de temps, en fait. Est-ce que ça a un sens de faire un enfant quand il n'y a plus de temps? Est-ce que ça a un sens de créer quelque chose, d'avoir un projet scientifique quand il n'y a plus de temporalité? C'est ça le film, et il y a un truc qui joue presque contre ça.
Antoine Guillot, enfin sur High Life à nouveau.
Je sais pas, je crois que vous y cherchez trop. Enfin, je l'ai reçu vraiment de manière très très physique, très directe, très. Il y a un moment, je me suis dit, je vais pas essayer de dire ah oui, finalement ça parle de ça parce que c'est évident. Mais au-delà de ça, il y a un film. C'est-à-dire, il y a vraiment un film où il se passe des choses. Quand vous dites que c'est tout sauf charnel, précisément, c'est tout sauf charnel. C'est organique, mais c'est pas charnel. La chair est extrêmement triste parce qu'elle est mécanisée, parce qu'elle est orientée vers une reproduction, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils commencent à faire des choses ensemble, ça va être la panique dans le vaisseau. Dès que ça passe par un peu comme ça va être le cas. Le film me fait beaucoup penser à Alien. C'est un Alien sans monstre parce que le monstre, il est à l'intérieur de tous ces personnages et ça reprend beaucoup d'ailleurs des choses, des fluides, y compris Android qu'il y avait dans Alien, qui là s'échappe de cette non sexbox mais fuckbox et qui est quand même très important. Et c'est vrai qu'il y a des moments très bêtement émouvant, les premiers pas d'un bébé qui sont des premiers pas dans l'espace, c'est vraiment c'est pas les premiers pas sur la Lune, c'est les premiers pas dans l'espace, c'est d'une évidence et d'une beauté.
Le jardin aussi,
une beauté totale. Beau. Et puis la fin est très belle parce qu'on en entendait parler depuis longtemps de ce projet avec l'intervention d'Olafur Eliasson où on se demande le début, on se dit mais quand est-ce qu'il arrive, Olafur Eliasson, quand il finit par arriver, c'est extrêmement beau parce qu'on est là, on est au-delà du temps, mais on est aussi au-delà de la morale. La question du tabou dont vous parliez, comment mettre des éléments moraux quand il n'y a plus personne autour de vous? Pourquoi faire?
Ouais, pourquoi faire? Et puis, je pense que Claire Denis n'a pas besoin de Cronenberg. Je ne sais pas ce qu'elle pense de Cronenberg. Claire Denis, et elle est grande pour cela. High Life. Bon, allez dans les salles, près de chez vous, si vous le pouvez, vite, pour voir ce film, si vous en avez envie, après les propos que nous venons d'échanger, à suivre dans la dispute l'autre Claire qu'on aime dans le cinéma français, Claire Simon. Première Solitude, un coup de cœur de Muriel Jourdé pour Orson Welles et puis un petit salon de Lucille Comeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute cinéma en direct, en public, du Bel Air, de Bar de la Maison Radio avec Première Solitude de Claire Simon. Il y a 25 ans, la cinéaste avait filmé le théâtre de bien des drames et des passions, la cour de récréation d'une école maternelle. Le film à récréation ressort aussi en version restaurée sur les écrans. Aujourd'hui, donc, ce sont les adolescents que la caméra enregistre pendant les intermèdes de la vie scolaire. Une fois même en cours, ça, j'ai pas bien compris comment cette scène était possible. Peur et espérance qui sont toujours là, mais là ça s'exprime dans un échange avec les autres, mais sur Terre comme dans l'espace de High Life, c'est la question de la solitude qui est centrale.
Je sais qui je veux devenir, mais je sais pas qui je vais être en fait.
Tu as peur de l'avenir.
Ouais.
Et toi, tu veux pas aimer? T'as peur?
Moi, j'ai pas peur.
Tombe amoureuse. Et après, on reparle du contrôle de soi-même. Parce que je peux te dire que quand tu tombes amoureux, tes sens, tout ce que tu penses, tu perds tout le contrôle.
Mon père, il a pas le droit de rentrer chez moi. En fait, ma mère, elle le laisse sur le panier.
Mon père, il parle pas. Il n'est pas présent. Il est solitaire.
Avec ma mère, parfois, on mange pas ensemble. On mange chacun de notre côté.
Je t'avais dit que j'ai été adoptée avec mon frère ou pas?
Ouais.
Non, j'ai peur de redevenir seule plutôt.
Je préfère quand je suis avec quelqu'un, sinon je me sens seule au milieu de tous ces gens.
Bah moi je disais, on n'est pas les seuls à habiter, genre dans l'univers c'est pas possible.
Mais t'as vu comment c'est grand?
Encore une fois, grande cohérence de la programmation de ces émissions, hein, puisque ça finit vraiment avec ces adolescents qui regardent le vaisseau d'High Life. Antoine Guillot, pour commencer, sur Première Solitude de Claire Simon.
Alors peut-être pour vous expliquer comment cette scène de cours est possible, c'est une manière de faire intervenir dans le film Sarah Logereau, qui est professeure de lettres, et qui est celle qui a initié ce film, comme elle avait déjà initié Swagger d'Olivier Babinet quand elle était dans un autre établissement. C'est-à-dire que tout a commencé par un atelier dans ce lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, où ils font venir dans la classe cinéma de première, chaque année, un cinéaste pour faire un atelier, un petit court-métrage avec les adolescents. Voyant ce qu'elle avait filmé, Claire Simon, au départ, elle a décidé d'en faire un long-métrage avec eux. Et tout l'intérêt du film, c'est ça. C'est-à-dire que le film soit fait avec eux. Ce qui est assez étonnant avec Claire Simon, c'est qu'elle change souvent de dispositif quand elle fait ses films. Le concours qu'elle avait fait précédemment sur le concours de la FEMIS, c'était un film très Wisemanien. Enfin, on observe le fonctionnement d'une institution, cinéma direct, etc. Là, c'est tout le contraire. On va provoquer du dispositif sans arrêt et mettre de la fiction quasiment dedans. D'ailleurs, la toute première scène, qui est une scène de... d'infirmière scolaire qui va permettre une sorte de confession, en tout cas d'une des lycéennes du film, est entièrement une fiction, puisque c'est une comédienne qui joue l'infirmière. Mais ce qui est très beau dans ce film, c'est que tous ces dispositifs produisent quelque chose de vrai, qui est cette parole qui va surgir par la vertu du dialogue. Et moi, j'ai été très touché, par exemple, par la bienveillance qu'il y a dans ce film, y compris dans les rapports entre ces jeunes gens qui ne se connaissaient pas au départ, puisqu'ils étaient simplement rassemblés par la classe cinéma, et qui apprennent à se découvrir, à se livrer des choses, comme si on, vous savez, dans une amitié, d'habitude, ça se construit parce qu'on livre un peu de soi. Là, par la vertu de ce tournage, sortait cette parole, et je pense que c'était pas du tout la parole à laquelle s'attendait Claire Simon, qui elle avait lancé l'idée de la solitude. Voilà, on a tous, quel que soit l'âge qu'on a, une solitude partagée. La solitude, c'est ces enfants par rapport, et c'est les histoires qui sortent le plus souvent, par rapport à des parents dont les couples sont désunis depuis longtemps, et la souffrance qu'ils en ont, parfois extrêmement forte. Il y a un jeune garçon qui, en parlant, ne peut pas retenir ses larmes. On n'a pas l'impression d'être devant un moment obscène, parce que ce que filme le plus souvent Claire Simon, c'est pas tellement la personne qui parle, c'est celle qui écoute. Et il y a quelque chose de très beau sur cette vertu de faire sortir une parole dessus, ce qui en fait un teen movie très original, parce que généralement, on voit, soit on va montrer, on va exalter ce moment merveilleux de la jeunesse, etc., soit on va le montrer comme vraiment des gens pas fréquentables. Et là, on est dans un entre-deux qui, il me semble, sonne très vrai et parle aussi bien à l'adolescent qui va pouvoir aller voir le film qu'à l'adulte qui se souvient avoir été adolescent et qui lui-même se pose des questions sur ce qu'il fait subir à ses propres enfants. Donc je trouve que c'est un film qui parfois se traîne un peu, qui n'en finit pas de finir par moments, mais qui touche très juste, il me semble.
Lucille Como sur Première Solitude de Claire Simon.
Oui, il traîne d'une certaine manière parce qu'en fait, elle a adopté un dispositif qui a besoin d'être totalement abouti. Et donc, du coup, tous les groupes se configurent et se reconfigurent jusqu'à épuisement des combinaisons possibles de ces personnes qui se parlent l'un à l'autre. Bon, moi, j'ai adoré le film. J'ai été même assez bouleversée. Je crois que j'ai pleuré pendant l'intégralité de ce film. Je trouve que les questions sont aussi intéressantes que les réponses dans ce que se disent ces adolescents. Et c'est sans doute ça aussi ce qui est intéressant. En effet, cette artificialité totale du biais, parce qu'il y a un énorme biais, un énorme dispositif, produit une forme de vérité de soi qui est quand même assez impressionnante. Et cette singularité-là, elle crée de la solitude parce que ces personnages ne cessent de se rendre compte que, bah oui, que leur personne est tellement différente de celle de l'autre que leur solitude est totalement irréductible. Et c'est sans doute ça qui est assez bouleversant. Moi, ce que j'aime, c'est aussi que Claire Simon, elle ne se cantonne pas uniquement à l'espace du lycée. Elle sort à un moment donné et c'est assez inattendu, en fait, dans la construction du film. Et à mon avis, ce sont les plus beaux passages, des passages où notamment une des jeunes filles, celle qui est face à l'infirmière au début, va dans le bar que tient son père, qui est d'origine vietnamienne, dont on comprend qu'elle ne le voit quasiment jamais. Et donc, elle présente une amie. Elle est dans un rapport extrêmement froid avec son père. Et en même temps, le père a l'air enchanté de pouvoir leur offrir à boire. Enfin, il y a vraiment des regards, des rapports entre le père et la fille qui sont captés à ce moment-là, qui sont d'une vérité et d'une authenticité assez spectaculaires, je trouve. Ce que je trouve drôle aussi, je finis juste là-dessus, c'est que Le Figaro a titré sur le film un film sur la jeunesse de banlieue, ce qui est aberrant comme analyse. Ouais, enfin, vraiment, ça, c'est une grosse erreur d'analyse parce que justement.
Les premières options cinéma.
Oui, et puis par ailleurs, en fait, on s'en fiche. Enfin, la question justement de leur milieu ne se pose absolument pas. Par exemple, le fait que ce soit des enfants, enfin des jeunes, qui soient tous dans des rapports très compliqués avec leurs parents, n'induit aucune catégorisation sociale ou aucune généralité possible sur leur origine sociale. Et ça, je trouve que c'est fort parce que c'est pas facile à faire, je pense.
Muriel Joudet, Première Solitude, et vous ?
Oui, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est la manière dont ces jeunes s'expriment, et ils s'expriment très très bien. Et moi, ça m'a fait plaisir qu'on sorte un peu de tous les clichés dans le documentaire, comme dans la fiction liée à l'adolescence, donc se parler, ou toutes les phrases s'enchevêtrent et on comprend plus rien. Et puis le côté hormones en folie. Là, on a des gens très posés, très adultes, des gens très matures et finalement qui sont, oui, déjà adultes. Et pour moi, l'adolescence, c'est quelque chose qui est dans du mythe au cinéma et qui n'existe pas. Et là, enfin, on voit que voilà, l'adolescence, ça n'existe pas parce qu'ils sont déjà jetés dans leur condition d'adultes. Et derrière le petit dispositif de film d'option cinéma, il y a cette violence qui surgit. Et le vrai thème du film, je pense que c'est une sorte de désespoir tranquille. Et ce que c'est la tristesse adolescente, parce que je pense qu'ils sont à un âge où enfin ils peuvent voir et observer leurs parents. Et le film aussi, comme ça, selon les humeurs des adolescents, donc ça va de la tristesse à la normalité, parce qu'il y a quelques exemples d'adolescents qui ont une vie de famille assez banale. Et par ailleurs, c'est là qu'on s'ennuie un peu, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est un peu le drame. Et puis des moments beaucoup plus mélodramatiques avec moi, c'est celle qui m'a plus touchée, mais je saurais pas comment la décrire, mais une jeune fille qui raconte que sa mère est schizophrène, que ses grands-parents se sont suicidés. Enfin,
pas vraiment, Laetitia, je sais plus comment elle s'appelle. Pardon.
Je sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment d'une tristesse infinie. Mmh. Et cette jeune fille, très joyeuse, très timide aussi, porte vraiment sur son visage une sorte de tristesse comme ça qu'elle aura toujours, des cernes. Mmh. Elle est très marquée. Elle m'a semblé très marquée. On la voit faire ses courses toute seule et j'ai trouvé ça, enfin avec une amie, et j'ai trouvé ça très beau. La dernière chose qui m'a vraiment touchée, c'est cette absence d'égocentrisme. C'est-à-dire que c'est des adolescents qui, quand on leur demande de parler d'eux, bon, ils parlent parfois d'eux, mais ils parlent surtout soit de leurs parents, soit des enfants qu'ils aimeront avoir. Et ça m'a vraiment assez bouleversée de voir que finalement, parler de soi, c'est parler des autres. C'est s'inquiéter pour ses parents, c'est rêver de ses enfants. Et là encore, le film, j'ai vraiment l'impression qu'il arrive à supprimer tous les clichés habituels du film d'adolescence et du teen movie.
Ouais. Mais à quel prix ? Alors, le prénom de cette jeune fille, Antoine ?
C'est Lisa.
Isa. Bon. Alors d'abord, quand vous m'apprenez donc l'infirmière n'est pas une infirmière mais une actrice, et moi je me sens floué quand vous dites ça.
J'aurais pas dû le dire.
Ben non, mais c'est pour essayer de parler.
Mais pourquoi vous sentez floué?
Ben je vais essayer de développer, mon cher Antoine.
Je relance.
Non, mais parce que je sentais déjà à regarder ce film que j'ai trouvé évidemment touchant, émouvant, et que ces jeunes gens m'ont ému chacun. Enfin, c'est vrai qu'ils portent notamment cette jeune fille, mais vraiment pas qu'elle, des choses lourdes, qu'ils l'expriment bien. J'ai senti une forme d'artificialité, ben voilà, qui renvoie tout à fait à ce que vous venez de dire, y compris dans la façon de s'exprimer, y compris dans l'intérêt porté aux autres. Enfin, il y a quand même quelque chose d'extrêmement dirigé, et aussi, pardon, hein, je vais dire un gros mot, mais une forme de superficialité, parce que je regarde ce film, pendant le film, je suis avec ces jeunes gens et je trouve ça très bien de les voir s'exprimer. Mais qu'est-ce que ça me dit de plus que ces propos-là, cet instant-là? Et l'artificialité aussi, pardon, je reviens au père vietnamien qui tient le café, il est content parce qu'il y a aussi une caméra qui est là. Enfin, il y a quand même ce sourire, il est plus vers la caméra que vers sa fille, parce qu'il se passe un truc un peu étonnant, ma fille, elle est dans un film. Enfin, vous voyez, et c'est tout à fait mignon de sa part, c'est pas la question. Mais on n'est pas là à prendre quelque chose du réel. Il y a pas grand-chose du réel. Et c'est ça qui m'a un peu mis dans une drôle de position par rapport à ce film, Lucine.
Oui, il y a une différence entre le réel et la vérité. En fait, moi, je pense que ne crée absolument pas d'effet de réel parce que le processus et l'artificialité se montrent tellement qu'elle produit de la vérité.
Je crois que c'est une infirmière, donc ça se montre.
Oui, mais...
pas, quand soit, j'ai dit floué.
Oui, bah moi je savais pas non plus, mais par exemple ça change pas du tout mon rapport ni au film ni au personnage. Et juste, je voulais juste ajouter que dans la douceur des rapports entre personnages, bon, ça pour le coup je suis pas tout à fait d'accord. Il y a aussi beaucoup de choses un peu non avouables et du domaine de la jalousie ou parfois même de la méchanceté. Moi je trouve qu'il se joue dans les questions-réponses. Il y a quand même une scène dans le bus qui est entre une jeune fille et son copain et ils parlent de leur vie amoureuse. C'est
un
des rares moments où voilà
et
un copain. Justement,
bah oui.
Et on comprend que bon, elle est quand même un peu amoureuse de lui et que lui il fait semblant de pas comprendre, enfin c'est assez énervant pour elle, et là clairement se joue quelque chose de l'ordre de la cruauté dans cette espèce de processus de questions-réponses qui détruit un peu l'angélisme possible qu'on peut avoir aussi sur ces personnages là à mon avis, même des questions de domination sociale.
Moi je le trouve très diplomate ce garçon envers elle, vous voyez, on a des regards différents sur cette question. Encore un petit mot, Antoine Billot.
Je comprends que ça puisse être gênant parce que c'est une forme de documentaire assez étrange. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le réel et la vérité, c'est pas du tout. La même chose. Moi, ce qui me passionne, c'est que justement cette artificialité provoque ça et provoque une parole qui ne serait certainement pas sortie sans ça. C'est-à-dire si on devait simplement, même sur le principe de l'interview, si c'était Claire Simon qui les avait interviewés directement, il n'y aurait pas eu ça. Et puis évidemment, ils sont conscients, ils sont tous conscients qu'il y a les caméras, parce qu'ils sont tous en train de faire un film, ils ont ce projet de faire un film. Et on parlait tout à l'heure de Pattinson et Claire Denis et du plaisir qu'ils avaient de faire un film ensemble. Il y a aussi ce plaisir-là, mais tout d'un coup,
quelque chose... Oui, quand j'ai vu qu'à la prise de son, il y avait Hugo, je ne sais qui, je me suis dit, ah non, ils participent vraiment.
Tout d'un coup, quelque chose les dépasse. C'est comme si on réfléchissait et on s'exprimait mieux, effectivement, devant une caméra, et que ça aidait à penser, que ça aidait à formuler des choses. Parce que ce n'est pas des textes qu'ils ont écrits, qu'ils ont appris.
Mais il y a une hybridité, en tout cas, j'aimerais voir énoncer.
Mais
davantage.
Je trouve ça que même beau. Oui, mais je trouve ça même beau qu'il ne soit pas énoncé. C'est-à-dire qu'on soit là dans cette espèce de malaise cinématographique qui nous ouvre à autre chose. Et c'est vrai que parfois ça se traîne en longueur, comme écouter une conversation de personnes se traîne en longueur. Sauf que je me suis rendu compte même qu'il y a des moments où je ne les écoutais plus, mais je les regardais. Je les regardais.
J'ai aimé toutes les séquences.
J'étais avec eux, même quand c'était répétitif, etc. Et puis après, quand Le Figaro dit c'est un film sur les jeunes de banlieue, c'est un film sur des jeunes de banlieue qui ne s'affiche pas comme un film sur des jeunes de banlieue. C'est-à-dire que c'est la banlieue limitrophe de Paris, c'est pas la pire banlieue, c'est pas la banlieue paupérisée, c'est la banlieue que connaissent des tas de gens qui sont dans la classe moyenne basse, y compris dans le déclassement social, puisqu'il y a ce voyage à Paris qui raconte ça et qui le montre sans que ce soit un drame. C'est des gens, mais cette jeune fille, elle fait ses courses au supermarché sans elle doit pas avoir de grandes ressources, mais c'est pas l'enjeu du film, c'est de montrer que ce sont des ados qui peuvent vivre dans ce domaine-là.
C'est un film sur 10 personnes, c'est pas un film sur des jeunes gens de banlieue. C'est ça que je dis à
Constantin. C'est sur 10 jeunes gens de banlieue.
Voilà.
Ce qui ne généralise pas au-delà de ça.
On est d'accord. Dernier mot, Muriel Jodet, peut-être.
C'est vrai que par rapport à l'artificialité, même au niveau de l'image, il y a un travail sur la lumière, sur la photographie qui est très artificielle. Mais moi, encore une fois, je pense que ce qui est artificiel, c'est c'est quand on nous présente la jeunesse comme ce que j'appelle les hormones en folie, le côté on parle dans un argot que personne ne comprend. Pour moi, les contraintes dans ce film produisent de la vérité, alors que à l'inverse, le côté jeunesse turbulente produit pour moi pas de la vérité mais du réalisme.
Non, mais je suis d'accord, mais on passe ton bac d'abord, on n'est pas non plus il y a du cinéma qui arrive à faire parler des gens de cet âge-là.
Après moi, là où je suis reconnaissante au film, c'est que je me dis qu'il me présente des adolescents comme ça, c'est-à-dire calmes, posés, qui pensent aux autres. Et là, je pense qu'ils font pas. Et je pense que c'est la principale qualité de ce film, c'est de nous dire il y a aussi des adolescents qui échappent au concept d'adolescent.
J'ai passé un moment intéressant avec eux, pour le coup. Dernier mot, Lucine Comeau.
Juste pour faire la boucle avec Récréation, donc, qui ressort aussi. Récréation, ce sont des tout-petits, donc il y a quelque chose de très primitif. Donc ça fonctionne très bien de juste poser une caméra, se faire oublier et filmer. Bien sûr. Là, ça ne peut pas fonctionner à cet âge-là.
Oui, voilà, je sais.
Bien sûr. Là, ça ne peut pas fonctionner à cet âge-là de juste poser une caméra parce que la complexité de cet âge-là fait qu'il faut trouver un biais. Et moi, je trouve que le biais, il est parfait.
Première solitude de Claire Simon, sortie sur les écrans ce mercredi. C'est le moment du coup de cœur de Muriel Jodet pour The Other Side of the Wind d'Orson Welles, disponible, sur Netflix.
Jay can't afford
the Ernest Hemingway of the cinema.
Mr. Hannaford, I just want to know what he represents.
The man is infested with disciples. I'm the apostle.
Just like me and God, how could you tell us apart?
Hannaford's new movie?
The Other Side of the Wind.
What's that about the movie?
We don't talk about the movie.
So you old guys are trying to get with it. Is that what this movie's about?
Well, we don't actually know.
What do we know? Jake is just making it up as he goes along.
He's done it before.
Movies and friendship. Those are mysteries.
Mr. Hannaford, could you please slow down?
Mr. Hannaford!
What he creates, he has to wreck. It's a compulsion.
Want me to bring you another scotch?
We'll have our own movie. A real movie.
The Other Side of the Wind.
Well, here it is. If anybody wants to see it.
Ah oui, ça, tout le monde a envie de le voir. Enfin, moi, ça fait combien de temps qu'on attend ce nouveau film d'Orson Welles?
40 ans que je l'attends.
Non, vous n'étiez pas né il y a 40 ans, Muriel Jodé. Ne commencez pas par dire une...
En tout cas, ça fait plus de 40 ans que certains attendent ce film. En tout cas, qu'il est entre la genèse et sa sortie, il y a 40 ans. Et c'est vrai que parler de The Other Side of the Wind, c'est parler de deux choses. À la fois du film de la genèse, donc de ses 40 ans, et du film en lui-même. Alors moi, la genèse, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais je vais quand même en parler dans ses grandes lignes, puisqu'on n'a pas
de
beaucoup
de temps.
De
façon très synthétique, plutôt oui, parler du film.
Très synthétique. Alors Antoine ne veut pas, Antoine Guillot ne veut pas, mais bon, je vais quand même aller très vite. Donc l'idée du projet germe dans les années 60. Orson Welles veut faire un film dans le milieu du cinéma avec un cinéaste, Jack Hannaford, qui est à la fois une sorte de mix entre Ernest Hemingway. Je sens que ça vous ennuie, mais
pas du tout. Je regarde la montre parce qu'il y a un petit salon qui suit.
D'accord. Ernest Hemingway et lui, donc c'est un cinéaste en exil qui a 70 ans et qui revient à Hollywood pour fêter son anniversaire et montrer son dernier film inachevé à un parterre de critiques, journaliste, fan. Le tournage commence en 70 et il va s'étaler jusqu'en 76. Il est tourné en Espagne, aux États-Unis et en France. Et la difficulté que rencontre Orson Welles, c'est que parce qu'il veut rester libre, parce qu'il veut faire son film, enfin, écrire son film comme ça lui vient, parce qu'il veut, il tient cette liberté, il va peiner à trouver des financements. Alors, c'est pour ça que le tournage se passe sur 6 ans. Et bon, je vais pas revenir sur les complications qu'il a rencontrées et tout de suite revenir, arriver à 2014. En 2014, enfin, toutes les pellicules du film arrivent à Los Angeles pour un montage final. Mais là encore, il y a un problème de financement qui se pose, c'est-à-dire que une campagne de financement participatif est lancée et elle n'arrive pas. Arrêtez de regarder l'heure, c'est horrible, j'ai l'impression de devoir sprinter. Elle n'arrive pas à bout, hein. Il faut 2 millions de dollars et on n'arrive pas à rassembler ces 2 millions de dollars. Alors il faut dire que ce film, en tout cas, la volonté de terminer ce film est lancée par des collaborateurs de Orson Welles et notamment par Peter Bogdanovich. Et c'est finalement Netflix donc, qui débarque et qui, je crois, injecte 5 millions de dollars et laisse toute la liberté au monteur qui s'appelle, je crois, Bob Murowski, qui est notamment le monteur de Des Mineurs de Catherine Bigelow. Et ce monteur, à partir des notes laissées par Orson Welles et d'un montage de 40 minutes, va essayer de deviner ce que voulait Welles et va finalement réussir à terminer The Other Side of the Wind. J'ai oublié de préciser qu'Orson Welles est mort entre-temps, en 85.
Détail.
Et voilà, un détail. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu le terminer. Donc, c'est à quoi ressemble ce film et de quoi...
Eh bien, à quoi ressemble ce film? On regarde sur Netflix.
Ah, c'est vrai, j'ai vraiment... Waouh,
d'accord. Ah ouais, ça fait déjà beaucoup de minutes.
Lisez mon article dans les Inrocks.
Ben voilà, lisez les Inrocks.
C'est terrible. Donc c'est fini, d'accord. C'est terrible. Là. Mais...
Lucille Comeau, on a entendu que c'était l'heure du petit salon, une heure d'un petit salon express, puisque aujourd'hui un film des frères Coen est sorti sur petit écran, Lucille.
Oui, et je vais raconter un peu un des 6 chapitres du film de la balade de Buster Scruggs, ce film, mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui circule dans les territoires fraîchement conquis des États-Unis avec un petit théâtre roulant, une petite scène sur laquelle il installe invariablement un homme tronc, comédien de son état, qui tous les soirs, devant des assemblées parfois peu fournies, dit à la fois du Shakespeare, de la poésie anglaise, des versets de l'Ancien Testament et des discours des pères de la nation. Un soir de vache particulièrement maigre, l'homme entend qu'on chahute pas loin, un autre spectacle semble retenir l'attention d'une plus vaste assemblée. C'est une cahute avec une poule, censément voyante, qui œuvre devant une grille de numéros. Les gens rient et hurlent à qui mieux l'objet de leur pari. Du théâtre au divertissement, du texte au jeu, d'une grande boîte à une plus petite, vous voyez où je veux en venir. Enfin, j'espère. Peut-être que j'ai totalement extrapolé le caractère parabolique de ce récit, mais le fait est que le film des frères Coen, produit et diffusé par Netflix, est visible depuis ce matin, 9h, sur nos petits écrans, et donc pas en France du moins, au cinéma. C'est le premier d'une série de films de grands auteurs estimés par le public et la critique dans ce cas, et cette sortie remue une fois de plus le vaste bazar qui est devenu l'exploitation des films en France. En décembre va sortir Roma de Cuaron, Lion d'or à Venise, et puis on attend également le nouveau film de Martin Scorsese, The Irishman. Irishman avec Al Pacino et Robert De Niro. Ce que Netflix et les autres plateformes d'abonnement payant bouleversent, c'est la chronologie des médias. Alors, je fais simple. En France, depuis les années 70, il existe une chaîne d'exploitation, une chronologie à respecter pour protéger les films, la salle, puis la sortie DVD et VOD, puis les chaînes payantes, puis les chaînes gratuites. Toutes ces étapes sont régies par des délais obligatoires. Aujourd'hui, par exemple, il faut attendre 3 ans entre la sortie en salle et sa diffusion sur Netflix et consorts. L'autre problème, c'est qu'on ne peut pas remonter la chaîne. C'est-à-dire que si un film sort directement sur une plateforme comme Netflix, alors il n'a aucune chance en France de sortir au cinéma. C'est différent chez certains de nos voisins européens. Par exemple, aujourd'hui, à Bruxelles, on peut voir La Ballade de Buster Scruggs au cinéma. Alors, est-ce que c'est grave? Et si oui, pour qui? Dans le cas des films du film du frère Cohen, eux, ils n'ont pas l'air de trouver ça très grave. De fait, tout grand cinéaste qu'ils ont, ils ont besoin de Netflix. Pour rappel, leur film No Country for Old Men en 2007, acclamé, primé, ne fut pas du tout rentable pour la production, dont plusieurs films cette année-là, comme Miramax ou Paramount Classics, fermèrent précisément à ce moment-là. Les frères Cohen se sont donc tournés vers Netflix pour leur nouveau film. Enfin, apparemment, ils avaient vendu d'abord une mini-série en 6 épisodes, même si eux disent finalement que c'était pas ça. Opportunisme ou pas, c'est un long métrage. Ils ont donc négocié dans un second temps de le sortir en salle pour qu'il puisse notamment concourir aux Oscars. Donc tout va bien. Alors est-ce que c'est grave pour le cinéma? Le film est un western, plus exactement donc 6 mini-westerns très largement musicaux. Et c'est vrai qu'en le regardant ce matin sur mon écran de télévision, qui n'est pourtant pas si petit, j'ai d'abord regretté le scope et puis une installation sonore convenable. Puis je me suis dit après tout, et si le film avait été pensé pour la télévision? Et dans ce cas, quel effet est-ce que ça crée pour le spectateur? D'où ma question. Les frères Cohen ont-ils réalisé une œuvre de cinéma pour le petit écran?
C'est ça la question. Antoine Guillot, pour commencer à y répondre.
À la question, est-ce qu'ils ont fait une œuvre de cinéma
pour le petit écran?
Non, je crois qu'ils ont fait une œuvre de cinéma qui peut se voir sur petit écran, comme beaucoup de films qu'on voit. C'est-à-dire que si vous regardez des classiques du cinéma, généralement, vous n'avez peu de chances de les voir en salle, même si on a de plus en plus qui ressortent, et vous êtes tout à fait conscient, en la regardant sur votre écran de télévision, de voir un film de cinéma. Est-ce qu'après on a envie de les voir en salle? Oui, le film d'Orson Welles, on a envie de le voir sur grand écran. Roma, on a envie de le voir sur grand écran, et on était ravis quand ça a été présenté à Cannes, de voir Twin Peaks sur grand écran au petit quinquin. Voilà. Ça n'empêche pas de les regarder sur un écran de télévision. La question de ça, je pensais pas tellement à cette question-là qu'il faut répondre, c'est est-ce que c'est grave pour le cinéma? Je ne sais pas ce que vous entendez par cinéma, mais c'est grave pour les cinémas en France, notamment, parce qu'il y a une vraie question qui se pose actuellement. Quand vous dites que la chaîne a été pensée pour protéger les films, c'est pas pour protéger les films, c'est pour protéger le financement des films, ce qui est une toute autre question. C'est-à-dire que s'il y a ces fenêtres d'exclusivité, c'est pour récompenser ceux qui contribuent le plus au financement des films. Donc au départ, les salles de cinéma, parce que par la taxe qui abonde le fonds de soutien, c'est elles qui financent le plus le cinéma. Et après, Canal+ mettait beaucoup d'argent, va en remettre pour quelques années peut-être encore, donc avait des privilèges. Là où la question commence à se poser de manière extrêmement différente, c'est qu'est-ce que ces diffuseurs font de ce privilège? Si les salles de cinéma hurlent contre Netflix et par leur présence au conseil d'administration du Festival de Cannes bloquent le passage possible des films à Cannes, qui s'en mord les doigts. Enfin, Roma, il tenait absolument à le passer. Quand on a vu Le Boulevard qui a été déroulé devant Alfonso Cuarón au Festival Lumière, on sent bien que Thierry Frémaux, là encore très mauvaise, que Roma ait remporté un Lion d'Or et pas une Palme d'Or. Mais le problème des salles de cinéma, c'est que c'est très bien d'avoir une exclusivité qui maintenant est réduite, je crois, à 10 mois.
La chronologie vient de changer.
Mais encore faudrait-il que les films restent en salle pendant 10 mois. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une raison pour que ce soit. Quand on parlait du film de Claire Denis tout à l'heure, qui sera peut-être dégagé de toutes les salles la semaine prochaine, et pendant ce temps-là, qui va pouvoir le voir? Vous comprenez? Donc, quand par ailleurs des gens aussi importants dans le cinéma que les frères Cohen, mais aussi Martin Scorsese et autres, doivent aller chez Netflix, évidemment, ils ont énormément d'abonnés, on ne sait pas exactement combien, ils ont énormément de moyens financiers qui leur disent tu peux faire ce que tu veux, mais il serait bien bête de ne pas en profiter, et le cinéma y gagne, puisqu'on a des grands cinéastes qui peuvent continuer à faire des films.
Muriel Jodet.
C'est vrai que c'est assez sidérant de voir que, par exemple, pour le film de Wells, il n'y a que Netflix qui est finalement intéressé. Je pense qu'ils voient très bien ce que ça va leur apporter en termes d'image, de faire une avant-première à la Cinémathèque, etc. Après, moi, les histoires de est-ce qu'on passe les films à Cannes ou pas à Cannes, ça m'intéresse très peu. Ce que je pense, c'est que ça ne va pas remplacer le cinéma, mais aujourd'hui, j'ai vu le programme, ce que Netflix proposait, et ça m'a un peu déprimée, je dois dire.
Ça veut dire pourquoi ?
ça donne pas très envie, c'est pas mon rapport, ce côté, je suis dans mes pantoufles, je regarde ce que Netflix me propose, ça, ce devenir casanier du spectateur me déprime profondément. Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire
le fait de ne plus sortir pour aller en salle, vous voulez dire.
C'est ça.
Oui, oui. Parce que si on fouille le catalogue Netflix, on trouve des choses formidables aussi.
Oui, mais on trouve ailleurs, et partout finalement. Et même ce qu'ils proposent en termes de classique, pour moi, c'est un peu limité. Donc ce devenir casanier, c'est pas qu'il me fait peur, c'est que je sais qu'il arrive, et que finalement, le fait qu'un film, c'est une durée incompressible, comme disait Henri Langlois. C'est-à-dire qu'on va dans une salle, et sortir d'une salle, c'est pas la même chose que mettre stop et passer à un autre programme. Donc là, ça va être vraiment une sorte vraiment de consommation au film qui me désespère un peu. Et acheter son billet, décider de sortir d'une salle, c'est pas la même chose.
Après, oui, mais on a ça quand même. Les exploitants français sont quand même en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous dites on fait pas ça, mais quand on met des cartes illimitées, ça veut dire que le cinéma c'est gratuit parce que vous payez une certaine somme par mois, vous rentrez et les exploitants vendent quoi? Des pop-corns,
oui,
plus que des films, vous le savez très bien.
Moi j'ai une carte illimitée, c'est-à-dire que je me déplace, il y a un truc de rituel, et même si il y a quelque chose de social qui se passe, c'est-à-dire qu'on est assis à côté d'inconnus, on regarde dans le noir un grand écran, et je me demande à quoi sert le travail des chefs-op.
C'est un peu romantique, Muriel, c'est pas là.
Non, c'est ça, vraiment, c'est encore ça.
Oui, enfin, on est surtout à côté de gens qui mangent du pop-corn, qui sont avec leur téléphone, qui sortent quand ça leur plaît pas.
Hier, dans High Life, la salle était complète.
Et encore faut-il que dans la salle, que vous trouviez une salle où il y ait le film que vous aviez envie de voir. Parce que les fameux exploitants qui défendent si fort le cinéma ne se gênent pas quand il y a des très gros films qui passent. Pour le mettre dans trois salles, et le film que vous avez envie de voir passe un horaire impossible une fois dans la semaine.
Oui, bien sûr. En attendant, Life passe au GC Léal parce qu'il y a 37 salles. La salle est blindée et on sent que quelque chose se passe au niveau de la salle. Regardez une comédie tout seul chez vous en pantoufles, c'est déprimant. Et par ailleurs,
où j'ai vu Life hier, on était trois.
Ah bah nous, c'était blindé, puis j'avais plein d'amis. Mais je connaissais tout le monde. Non, pour terminer, je me demande à quoi sert le travail du chef opérateur si c'est pour se terminer sur un petit écran, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est du cinéma compressé. Et le Coen, bien que je le trouve très, très laid, je me demande à quoi sert tout ça si c'est pour terminer sur... En fait, il faut être très bien équipé. Il faut avoir un rétroprojecteur. Regarder ça sur un petit écran, c'est totalement déprimant.
Mais les très laid, c'est déjà un avis esthétique, parce qu'il y a un travail de chef opérateur qu'on apprécie ou pas. Je me demandais si c'était Caro ou Jeunet qui avait réalisé certaines séquences. Oui, mais en tout cas, on la voit, l'image. Bon, peut-être qu'il faut être bien équipé. Lucille Comeau.
Oh, mais justement, moi, je me pose quand même la question du point de vue des cinéastes, parce que les frères Coen, ils ont donc su que ce film-là, les gens allaient le voir sur petit écran.
Et
je me demande ce que ça
produit.
Vous avez
dit à Bruxelles,
oui, mais
Stein,
de fait, enfin là pour le coup, il y a un choix esthétique. Je veux dire, quand on choisit Netflix comme producteur et comme
diffuseur
exclusif.
Je suis pas sûr qu'il se pose la question, moi, quand je vois le film.
Ah ben, je sais pas. Non. Je ne crois pas une seconde que Scorsese se soit posé la question.
Ils font du cinéma, non, Antoine Guillaume?
Voilà, là, c'est très clair. De toute façon, ils s'inscrivent comme tout leur cinéma dans une histoire qui est du cinéma hollywoodien, qui est un grand mélange de toutes les époques du western, et pas seulement hollywoodien. Le premier, et pour ça, est très rigolo d'ailleurs, le Tom Mix rencontre Sergio Leone, c'est
un peu de John Landis.
Et pour le coup, il joue sur la profondeur de champ, il joue sur le plan large. Enfin, ils sont complètement dans le cinéma. Ils tiennent aussi compte du fait que le petit écran est de moins en moins petit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le petit écran cathodique 4 tiers qu'on avait auparavant. La plupart des gens ont des écrans maintenant au format qui est celui du film, qui est souvent assez grand. Donc on n'est pas non plus exactement dans les mêmes conditions que quand on voyait un film. Et pourtant, combien de nous ont appris le cinéma en voyant les films sur des petits écrans chez eux, en pantoufles, comme vous dites,
dans les séances, a fait sa cinéphilie devant le cinéma de minuit.
Oui, mais en sachant que ces films ont été visibles, enfin, je sais pas, ça donne pas exactement la même impression. Moi, je trouve qu'il y a une forme de cynisme, vraiment, de la part des réalisateurs, à présenter une sorte de réflexion sur le genre avec cette variation. Donc, il y a 6 sketchs sur tous les genres du western. On a vraiment tous les types de western, du spaghetti au western le plus dramatique, premier degré. En petit écran, je trouve qu'il y a une forme de cynisme et presque d'irrespect pour le genre. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est pas que
l'irrespect pour le spectateur, peut-être.
Oui, et dans son rapport au genre cinématographique, je trouve que ça ne produit pas la même chose que de regarder un vieux Sergio Leone sur Arte. Pour moi, c'est pas la même chose.
Muriel Joudet.
Pour finir, juste dire que quand on voit un film, on se rappelle d'où on l'a vu. Moi, je sais que j'ai vu Tarkovsky au cinéma. Je voulais pas le voir sur petit écran. Je sais que j'ai vu tous les Leone au cinéma parce que je voulais pas.
Mais parce que vous pouviez le faire.
Oui, non, mais je pense que c'est possible. Encore, il faut juste mixer. Je regarde énormément de films. énormément
toutes les salles
de films
qu'il
sur
faut,
ma télé.
C'est-à-dire Paris, en France.
C'est l'idée que voilà, le support, on s'en rappelle toujours. Et se dire que les gens vont voir, je ne sais pas, le dernier Orson Welles sur petit écran, je trouve ça un peu déprimant.
Mais vous grandissez dans une vallée pyrénéenne, dans la plaine de la Beauce. Vous faites comment pour voir ces films dont vous parlez, Marielle Joudet?
Je ne sais pas.
Ben voilà, vous ne savez pas. Donc,
Non, j'habite, c'est vrai, à Paris. J'ai beaucoup de chance, mais il y a des salles qui font un travail, il y a des exploitants qui font un travail. Le cinéma de patrimoine cartonne en France, donc je ne pense pas non plus que ce soit un désert culturel, la France, dehors de Paris.
Quand même, on a souvent parlé des salles, on va dire, d'art et essai et des salles de patrimoine. Antoine Guillaume, vous en souvenez? C'est pas fameux en 2018 ce qui se passe.
Oui, non, mais c'est surtout si cette histoire peut avoir une vertu, c'est que si ça provoque chez les exploitants une prise de conscience qu'il faut que l'expérience salle soit à nouveau quelque chose d'unique et que ça les stimule un peu pour un peu plus de vertu.
Pour s'intéresser au cinéma.
Cinématographie et aux spectateurs, je pense que ça ne pourra qu'être bénéfique.
Bon, on doit s'interrompre cette discussion qui aurait pu durer bien plus longtemps. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Sarah Dion nous a rejoint comme chaque soir, nous rappelle d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donne sa réponse, Sarah.
Et la question était: quelle récompense l'acteur et réalisateur Éric Caravaca a-t-il reçu en 2000? Et la réponse est le César du meilleur espoir masculin.
Ce soir, des coffrets DVD à gagner de Senses, les films de Ryosuke Hamaguchi, distribués par Arte. Quelle question, Sarah?
Combien d'heures dure l'intégrale de la série cinéma Senses?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Rendez-vous lundi à 19h sans Liscom, qu'on remercie d'avoir été là pendant l'absence de Thomas Beau. On fera une dispute consacrée au spectacle vivant avec Lily Bloom, Lucille Como et René Solis. C'est notre affiche à l'instant de Jean Bellorinuc d'après La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Est au TGP Paradoxal 2 et par Marien Tillier. C'est au Théâtre de Belleville. Un coup de cœur de Lily Bloom pour Dans le pays d'hiver de Sylvia Costa et Le petit salon de Lucille Como. Pensez-vous qu'on aura encore envie de jouer le misanthrope en 2068?